affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de Canal Académie. Dans notre émission de ce jour, il sera question d'économie. Et pourtant, nous ne l'aborderons pas sous l'angle de la conjoncture. Nous n'allons pas cette fois vous asséner des batteries de chiffres. Non, car non pas qu'il serait inintéressant, bien au contraire, mais parce que nous avons pris le parti d'aborder l'économie non pas en observateur, mais en acteur. Et pourquoi ne pas lâcher le mot en entrepreneur ? Notre émission de ce jour prendra donc la forme d'une plongée, certes dans l'économie, mais dans l'économie réelle, celle des créateurs d'entreprises, celle des hommes et des femmes qui savent qu'il ne faut pas attendre la croissance, mais la créer, la poursuivre. Pour nous accompagner dans cette plongée dans l'économie réelle, nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios Yvon Gattaz. Comme chacun le sait, Yvon Gattaz a été le président du CNPF, l'ancêtre de notre MEDEF actuel, mais il est surtout un passionné d'entreprise. Il a lui-même créé, bien entendu, à l'âge de 27 ans, je crois, avec son frère, une entreprise industrielle devenue leader mondial de son secteur. Et surtout, depuis, il n'a jamais ménagé sa peine pour expliquer, d'une part, que les entrepreneurs sont bel et bien la solution aux problèmes d'emploi récurrents que connaît la France depuis quelques décennies, mais aussi que la création d'entreprise, bien au-delà de cet aspect économique, la création d'entreprise est une aventure de vie qui vaut la peine d'être vécue, qu'elle peut rassasier l'homme bien au-delà de ses besoins matériels. C'est d'ailleurs ce qu'il nous dit une fois encore dans son dernier livre intitulé « La double révolution ». Yvon Gattaz, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous. Pour commencer, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu ce qui se cache derrière le titre de « double révolution » qui est inscrit sur la couverture de votre livre où l'on voit quelqu'un gravir une échelle qui monte dans le ciel vers une entreprise.
Oui, oui, c'est vrai que la couverture et le titre sont un peu mystérieux. Une double révolution, qu'est-ce que ça peut cacher ? Il est marqué quand même en surtitre « création d'entreprise ». À la vérité, c'est simple. Cette création d'entreprise pour laquelle, vous l'avez dit, je milite depuis des décennies, enfin, depuis que j'ai créé moi-même une entreprise avec mon frère Lucien, qui était également ingénieur, en 1952, une histoire, vous voyez, bien lointaine, entreprise qui s'appelle Radial, qui fabrique aujourd'hui surtout des composants aéronautiques, entreprise qui est d'ailleurs dirigée, en parenthèse, par mon fils Pierre Gattaz, qui est assez connu, et qui la conduit très bien, depuis 1993. J'ai donc été un créateur au départ. Cette idée de création, de se lancer dans cette aventure, qui est quand même une aventure audacieuse, et même, disons-le, risquée, bon, surtout, elle est d'autant plus risquée qu'on est diplômé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, car pour un autodidacte qui n'a pas de diplôme, c'est la voie normale d'ascension sociale, donc les meilleurs autodidactes de talent ont créé de magnifiques entreprises, qui étaient normales. C'est plus rare chez les diplômés, c'était très rare même chez les diplômés. Alors,
et c'est ce que vous déplorez.
Ce que je déplore depuis le début. Alors j'avais, pour qu'on comprenne un petit peu ce titre et ce livre, j'avais écrit en 1970 un premier livre qui a eu une assez grande portée, qui a été bien connu, qui a été souvent réédité, « Les hommes en gris », qui avait été édité chez Robert Laffont, qui avait eu un très bon succès de librairie, mais qui avait eu un succès d'estime qui n'était pas une portée suffisante auprès des intéressés. J'ai déploré que ce livre n'ait pas eu plus d'influence, vous voyez, car les diplômés...
Il a été salué par les autodidactes, mais pas par les fameux hommes en gris.
C'est ça. Alors, les diplômés me disaient « Oh, quel bon livre !» mais ils ne suivaient pas mes conseils. Ils continuaient à ne pas créer d'entreprise, et même mieux, pour faire une petite confidence amusante, le directeur d'une grande école, de ma propre école, l'école centrale de Paris, m'avait dit « Tu sais, tu fais un prosélytisme intense pour cette création d'entreprise, mais tu as tort, tu ne vas qu'alors je vais vous citer les mots, ce sont des perles qui méritent d'être gravées dans la pierre, si j'ose dire. Il m'avait dit, tu, avec ton livre pour la création d'entreprise par des diplômés, tu risques de détourner nos élites de la voie royale de l'administration ou des grandes entreprises multinationales pour les égarer dans les sous-bois dans les petits chantiers. Fin de citation. C'est vous dire qu'on n'était pas pris au sérieux. On n'était pas pris au sérieux. Vouloir faire créer des entreprises nouvelles à haut risque par des diplômés qui avaient fait des études justement pour courir moins de risques ou qui croyaient pouvoir se dispenser du risque parce qu'ils avaient obtenu un diplôme, ça paraissait une aventure invraisemblable. C'est vrai, donc ça n'a pas réussi. Et voilà pourquoi cette France curieuse, qui est réputée novatrice, imaginative, etc., pendant près de 50 ans après la guerre, presque jusqu'en l'an 2000, de 50 à 2000, a créé très peu d'entreprises. Et nous avons été, pendant des décennies, parmi les derniers, parmi le peloton de queue européenne, pour la création d'entreprises nouvelles, ce qui était quand même dramatique. Alors, c'était la première révolution. Or, cette première révolution sur le nombre de créations d'entreprises...
Oui, parce qu'il y a eu un infléchissement, c'est que ce que vous décrivez dans votre livre, c'est que désormais, nous nous plaçons parmi les pays où il y a le plus de créations d'entreprises.
Oui, alors aujourd'hui, oui. C'est la première révolution gagnée. Dans cette double révolution, la première a été gagnée. Aux alentours des années 2000, nos statistiques sont un peu complexes. L'Agence pour la création d'entreprises situe le point d'inflexion précis, de bondissement en 2003, pourquoi pas. Moi, je le situe un peu avant. Aux alentours des années 2000, il y a eu une prise de conscience. Et d'un seul coup, c'est parti, ça a fleuri. Alors, on me pose toujours la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je n'en sais rien. Nous avons, c'est le miracle du jardinier, vous savez, le jardinier... Il prépare la terre, il laboure, il sème la bonne semence, du moins il croit que c'est de la bonne semence, et puis après il roule, et après il arrose, il arrose, il arrose, il arrose, et il ne pousse rien. Et alors il est désespéré, il croit que la terre n'est pas bonne ou sa semence est mauvaise, et puis un matin, il arrive, tout a poussé d'un seul coup. C'est ce qui s'est passé avec la création d'entreprises françaises. Il y a eu le miracle du jardinier aux alentours des années 2000, et en 10 ans, d'une dizaine d'années. Je ne vous donnerai pas de chiffres trop précis parce que j'ai beaucoup travaillé ces chiffres avec l'INSEE et la PCE. On a quelques petites difficultés à les manipuler. Ce qui est certain, c'est qu'on est passé de quelques 200 000 créations d'entreprises nouvelles par an pendant des décennies, on est passé brutalement à 400 000. On est aujourd'hui à 400 000. Donc aujourd'hui, après avoir été les derniers de la classe, nous sommes aujourd'hui dans le peloton de tête pour le nombre de créations d'entreprises en Europe. Première révolution gagnée.
C'est très important à souligner, car dans l'imaginaire collectif, nous continuons à penser, et ça continue à être dit et répété, que les jeunes Français ne souhaiteraient qu'une chose, devenir fonctionnaires, seraient dans une logique assurantielle, très prudente, n'aspiraient qu'à des emplois protégés et autres. Ce que nous apprennent ces chiffres, c'est que cela ne correspond pas à la réalité.
Pas à la réalité, non, au contraire.
À la réalité vécue.
Nos jeunes, je les connais bien, puisque je m'occupe, vous savez, beaucoup d'eux. J'ai créé cette association Jeunesse et Entreprises reconnue d'utilité publique. Je l'ai créée en 1986. J'en suis président depuis cette date. Je m'occupe donc énormément des jeunes et j'allais presque dire à temps complet. Et je les aime beaucoup. Et on a des jeunes extraordinaires. Croyez-moi, on a beau essayer de dire qu'ils sont complexés, ils n'ont pas le goût de l'aventure, le goût du risque. Mais ce n'est pas vrai. On a parlé de cette fameuse génération Y. On nous a dit, la génération Y, alors vous avez vu, elle ne se mettra pas aux sciences, aux mathématiques, elle ne veut rien savoir de tout ça, des complexes. Mais c'est une génération magnifique qui s'est adaptée de façon invraisemblable au numérique. Le numérique, c'est la génération Y. Donc, non seulement il ne faut pas les plaindre, mais il faut les admirer, les encourager et les applaudir. C'est ce que je fais. Alors, oui, donc c'est la première révolution du livre, la première révolution gagnée, le nombre d'entreprises créées. Mais, car il y a un mais. La France, si aujourd'hui, elle est dans le peloton de tête pour le nombre de créations d'entreprises créées, ex nihilo, eh bien, malheureusement, elle est restée dans le peloton de queue pour le taux de croissance des entreprises. Car ces entreprises, c'est bien beau de les créer, mais si on veut qu'elles créent des emplois, puisque tout le monde ne parle que d'emploi, la triple priorité de tous les pays du monde aujourd'hui, de l'Europe, et dans l'Europe, de la France en particulier, l'emploi, pardon de le redire une deuxième fois, eh bien cet impératif catégorique ne sera rempli que si on crée des entreprises de croissance. L'emploi n'en résulte que d'un facteur, la croissance de l'entreprise. Une entreprise qui reste sans salarié, qui n'a pas
jamais créé qu'un seul emploi.
Qu'un seul emploi. Alors, remarquez, votre plaisanterie est quand même bonne, parce que moi je suis très content quand on vient me dire un chômeur a créé son propre emploi, les auto-entrepreneurs. On me dit, faut-il les supprimer ? Je dis non, car créer son propre emploi, c'est déjà bien, c'est un chômeur en moins. Mais plutôt qu'un chômeur en moins, je préférais un employeur en plus. Un employeur. Créer une entreprise, c'est devenir employeur. D'ailleurs, j'ai une phrase que je martèle auprès de tous les gouvernements sans cesse, sans être particulièrement écouté, c'est pour l'avenir, la multiplication des emplois passera par la multiplication des employeurs.
Donc pour l'instant, on a une multiplication des créateurs d'entreprises, mais ils ne sont pas pour autant des employeurs.
Voilà, bravo, exactement. Il faut que ce soit des employeurs. Mmh.
Quels sont les verrous à faire sauter ?
Ah, beaucoup de verrous à faire sauter. Alors, je vous en donner cinq, puisque vous me posez la question des verrous, on va en prendre cinq. L'écosystème, les environnements qui entourent ces créations d'entreprises et qui constituent effectivement une sorte d'écosystème est quintuple. Alors, cinq verrous, puisque votre expression est très bonne. Premier verrou qui existait depuis longtemps, c'était le verrou psychologique. Est-il bien ou pas bien de créer une entreprise ? Et si on est diplômé, est-ce que c'est pas une chute sociale ridicule de devenir artisan de fond de cours quand on a des diplômes prestigieux,
c'est
madame ?
C'est ce qui vous avait été dit lorsque vous avez créé votre entreprise.
Absolument, absolument. On vous a dit, ils sont farfelus d'ailleurs. Par parenthèse, quand on a créé notre entreprise, mon frère et moi, avec des diplômes qui étaient honorables, nous sommes sous la pression de nos parents qui étaient enseignants, parce qu'on est enseignants et petits-fils d'enseignants. Nous étions allés voir 10 personnalités, amis ou relations de nos parents. Mes parents nous ont dit, allez leur demander conseil. Et nous sommes allés voir 10 personnalités connues ou prestigieuses, et leur dire, qu'est-ce que vous pensez de notre aventure ? Eh bien, les 10 ont été unanimes, 10 sur 10, ne faites pas ça. On est passé outre et on ne l'a pas écouté. Donc,
l'environnement. Pour rappeler la conséquence de cela, si vous les aviez écoutés, combien d'emplois en moins ?
Eh bien, voilà.
Radial, combien
d'emplois ? Radial, au 31 décembre de cette année, à 2878 personnes.
Voilà. Mais à démultiplier par le fait qu'il y en a qui sont passés, qui sont partis, qui ont pris leur retraite. Donc,
il y a eu du turnover.
Sur plusieurs générations, ça fait probablement quelque chose comme 10 000 emplois.
Sûrement, peut-être plus, ou peut-être même davantage,
perdus, sans compter les impôts induits.
Absolument. Absolument. Non, c'est sûr que le frein psychologique a été très fort pendant longtemps en France. Eh bien, alors, puisque nous parlons des verrous, ce premier verrou est élevé. Grâce sans doute à un prosélytisme, j'ai été le premier à faire, mais j'ai eu beaucoup de disciples, il faut le reconnaître. Nous avons été assez nombreux à faire de la propagande pour la création d'entreprise à partir de zéro, et à force de semer les graines du jardinier, ça a poussé. Ça a poussé. Donc aujourd'hui, celui qui crée une entreprise, même s'il est diplômé, si j'ose dire, c'est pas un génie, n'est-ce pas, mais c'est un aventurier honorable. Un aventurier honorable. On n'est pas encore tout à fait au niveau de l'Amérique, mais la France a fait des pas considérables. Donc, si vous voulez, j'estime que ce verrou a sauté. Première victoire, une contrainte a disparu. Deuxième contrainte de cet écosystème de la création d'entreprise, c'était les contraintes qu'on pourrait appeler administratives. Les difficultés administratives à créer une entreprise, remplir des papiers complexes, attendre longtemps, des trucs... Une anecdote parmi 100, quand nous avons créé Radial en 52, il était administrativement impossible de créer une entreprise. Car il fallait un imprimé qui s'appelait le CABIS, qui ne vous était donné au tribunal de commerce que si vous aviez un siège social, mais quand vous alliez au guichet du siège social, on vous le donnait que si vous aviez déjà le CABIS. Alors, après quelques allers-retours, un guichetier m'a dit, monsieur, faites comme tout le monde, trichez. Oh, ça veut dire quoi ? ben mettez une fausse adresse et vous viendrez la rectifier la semaine prochaine. Et c'est comme ça que j'ai eu une adresse inventée dans un pays inventé, une rue inventée, un numéro inventé. Et 8 jours après, je suis allé donner la bonne adresse.
Ou le guichetier supplée aux lacunes du législateur.
C'est ça, voilà, voilà. Ou la création dans la tricherie organisée. Avouez que c'est pas mal non plus. On ne pouvait créer que dans la tricherie organisée. Donc, pour en terminer avec ce deuxième verrou, il est levé, il y a les formalités administratives aujourd'hui sont très légères, il y a eu des progrès considérables, il faut le reconnaître. Troisième verrou qui a été levé partiellement, et même pas beaucoup, c'est le verrou des contraintes que j'appellerais juridiques. Aujourd'hui, on a un arsenal de sociétés possibles, montages légaux, tout à fait honorables, simplifiés, sociétés à responsabilité très limitée, sociétés unipersonnelles, etc. Les gros progrès ont été faits, et c'est plus un obstacle. On peut dire que ces trois verrous ont été, en France, levés. Mais il en reste deux immenses, qui malheureusement n'ont pas été levés, et qui expliquent d'ailleurs, en grande partie, le manque de croissance de nos entreprises françaises par des diplômés, c'est le verrou fiscal, qui est toujours himalayen. Nous avons, vous le savez, la plus forte fiscalité d'entreprise in the world. Et puis le dernier, le cinquième, c'est les contraintes sociales. La rigidité de la législation du travail en France, qui est une des plus lourdes, effectivement, du monde. Et ces deux fardeaux, ces deux verrous très lourds, ne passent pas inaperçus. Puisque nous demandons à des diplômés de créer des entreprises, ils sont de plus en plus avertis, ils réfléchissent de mieux en mieux, ils se renseignent de plus en plus. Et il ne faut pas s'étonner que ces gens-là nous posent des questions en disant « Monsieur, sur les 5 verrous, il y en a 3 qui sont bien levés, je m'en réjouis, mais qu'est-ce que vous faites pour les 2 autres ?»
Alors, tant qu'il en reste 9 fût-ce qu'un, la porte ne s'ouvre pas.
Voilà, absolument, vous êtes tout à fait raison. Il faudra donc, pour gagner cette deuxième révolution, du livre, la double révolution, eh bien pour la gagner, il faudra faire sauter ces 2 verrous qui restent. Comme je suis d'un optimiste constant, vous le savez, on a même dit parfois que mon optimiste était pathologique. Enfin, je ne sais pas s'il est pathologique ou excessif. Enfin, ça ne m'a pas trop mal réussi d'être très, très, très optimiste, trop optimiste. Je crois que, quels que soient les gouvernements de la France, ils seront obligés dans l'avenir d'atténuer ces contraintes fiscales et ces contraintes sociales. Obligés devant un mur granitique des réalités, tout le monde est obligé de faire marche arrière. Et on va y arriver. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas y arriver. Alors, si par hasard on ne les lève pas, eh ben, il va se produire ce drame, c'est que les jeunes que nous poussons à créer des entreprises et qui répondent bien, qui répondent très bien. Regardez le nombre d'incubateurs, de pépinières dans les grandes écoles et dans les universités, même aujourd'hui. Ces jeunes, intelligents, diplômés, instruits et avertis, auront des idées, trouveront peut-être des créneaux en France, des projets innovants, des créneaux produits marché, comme on dit, mais risquent de le trouver en France et d'aller le développer à l'étranger. C'est ce qui se fait actuellement. Ils vont créer la finance à Londres et ils vont créer le numérique dans la Silicon Valley. Et voilà pourquoi il y a tant de Français dans la Silicon Valley, comme ça a été prouvé la semaine dernière au groupe qui accompagnait le président de la République dans cette Silicon Valley, où tout le monde est revenu étonné de ce qui se passait là-bas avec autant de succès.
Oui, c'est peut-être un fait qui n'est pas assez souligné, c'est que l'on croit fréquemment à cause de quelques cas médiatisés ces derniers mois, l'on pense que ceux qui partent sont des gens dont la fortune a été faite et qui recherchent un asile fiscal. Si l'on se penche sur les chiffres réels de l'émigration, car il y a bien une nouvelle émigration française aujourd'hui, ce sont plutôt des gens qui sont en âge de créer leur entreprise et qui, ou en tout cas d'utiliser leurs compétences et qui vont les exploiter ailleurs. Situation dramatique puisqu'on a de surcroît investi grandement sur ces personnes, parce que parmi les atouts français, il y a celui de la formation. Je crois qu'on a des gens qui sont extrêmement bien formés, mais encore faut-il leur laisser la possibilité de l'exercer sur le territoire national.
Ah ben c'est d'autant plus dramatique que j'ai une formule qui a été retenue par beaucoup de mes confrères, c'est que la France importe des bacs moins 6 et exporte ses bacs plus 6. Vous voyez que c'est une balance intellectuelle.
Il est certain que dans une économie de la connaissance, il y a des choix plus judicieux.
C'est vrai. La balance actuelle est malheureusement dramatiquement négative et déficitaire.
Alors pour remédier à cette situation, pour rentrer un petit peu plus dans le dur des sujets, vous avez cité donc le nom de ces deux verrous, verrou fiscal et verrou social, quels sont les mesures les plus concrètes, les plus urgentes, qui seraient de nature à envoyer un signal très positif.
C'est ça. Alors, il y a ça, et puis il y a quand même ce prosélytisme de bouche à oreille qui marche très bien. Bah, je suis moi très surpris par le changement qui s'est produit dans l'enseignement depuis 30 ou 40 ans que je milite, vous le savez, pour cette création d'entreprise. Aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, c'est une aventure honorable qui n'est pas déconseillée à personne. Et les grandes écoles ont été en tête, les grandes écoles aussi bien commerciales qu'écoles d'ingénieurs. Elles ont toutes monté des incubateurs, ce qui est très bon signe, pour permettre à ces jeunes qui se lançaient souvent dans le numérique, c'est-à-dire dans des nouveaux créneaux, porteurs, exigeant assez peu de moyens financiers, ayant une infinité de possibilités. Car la question qu'on me pose dans toutes mes causeries, est-ce que les débouchés ne sont pas remplis et bouchés aujourd'hui ? C'est une plaisanterie, n'est-ce pas ? Bien sûr, je ne vais pas conseiller aujourd'hui, dans une grande école d'ingénieurs qui fabrique des connecteurs coaxiaux pour les télécommunications comme nous l'avons fait il y a 50 ans, mais aujourd'hui, le nombre de débouchés possibles, créneaux pour du marché porteur, se sont multipliés de façon infinie, comme disait Jean-Baptiste Say, sous une autre forme, les débouchés dans l'avenir seront infinis, ils le sont. C'est plus une gerbe, c'est plus une nuée, c'est plus un cloud, c'est une nébuleuse, c'est la voie lactée. Aujourd'hui, le nombre de débouchés, il ne s'est pas multiplié par 2 ou par 10, il s'est multiplié par 1000, plus de 1000. Moi, tous ces jeunes qui viennent me voir me disent « j'ai une idée ». Et ils ont des idées non conformistes et même anticonformistes qui surprennent toujours les seniors comme moi. Je dis « oh là là, quelle idée !» J'ose pas leur dire, elle nous paraît à nous, seniors, farfelus. Alors je leur dis pas, parce que ça les vexerait. Mais entre nous, plus l'idée est anticonformiste, elle est farfelue, si on peut encore employer ce mot, eh bien plus elle a des chances de réussir de façon explosive. Qui aurait cru que l'idée de départ de Steve Jobs, Bill Gates et des créateurs de eBay, d'Amazon et autres Facebook aurait eu ce succès au départ? Personne. L'idée paraissait stupide. Et elle n'était pas la preuve. Ça a été l'explosion que vous connaissez. Donc il y a aujourd'hui dans le numérique une infinité de possibilités. Donc au moins les jeunes, ils savent que le problème du créneau, ils n'ont pas à se faire de soucis. Le tout, c'est qu'ils le trouvent. Car ce fameux créneau, c'est le secret de l'entrepreneur. Et c'est le vrai secret de l'entreprise. Le secret de l'entreprise, il y a deux secrets dans l'entreprise pour réussir une entreprise. Un, il faut d'abord que le créateur ait des qualités de créateur d'entreprise. Or, ces qualités ne sont pas les mêmes que les qualités scolaires ou universitaires. Vous savez, j'ai décomposé dans le livre, vous l'avez vu, en deux sortes de qualités pour ce qu'on appelait autrefois les élites. C'est les qualités de réception, je parle un peu en électronicien, vous me pardonnerez, les qualités de réception, qui sont que 4, qui permettent de passer tous les diplômes et tous les concours. C'est la compréhension, qu'on appelait au 19e siècle l'intelligence, la compréhension, la faculté d'analyse, la faculté de synthèse et la mémoire qui a été considérée comme une qualité mineure et qui est en fait une qualité majeure. Nos académiciens ont toutes ces qualités à l'état extrême. Et vous voyez la qualité de l'Académie des académies de l'Institut de France. Mais les qualités qui servent le plus dans la création d'entreprise ne sont pas celles-là, sont les autres, toutes les autres qui sont alors très nombreuses et que j'appelle les qualités d'émission. Et ces qualités d'émission, qu'ils ne s'enseignent pas ex cathedra, qu'on ne lit pas dans les livres, qui peuvent se développer par incitation, mais enfin, qui sont souvent génétiques et qu'on peut améliorer. C'est l'imagination créatrice. Tout le monde n'est pas doté d'imagination. C'est la combativité, la pugnacité, la ténacité, cette qualité extraordinaire qu'on recherche chez tous nos collaborateurs. C'est le goût du risque. C'est le sens des responsabilités. C'est le goût du travail en équipe. C'est le goût de vouloir résoudre collectivement un problème mal posé et à solution multiple. Tout ceci n'a plus rien à voir avec ce qu'on apprenait autrefois dans l'enseignement supérieur bien établi, où on posait un problème bien net, à solution unique, et qui, par déduction et abstraction d'analyse, arrivait à une solution unique qui méritait une note généralement peu contestée. Tout ça est faux dans l'entreprise, complètement. Les problèmes sont mal posés, ils doivent être résolus en groupe.
Tout ça est faux dans la vie en général, d'ailleurs.
Et les solutions sont multiples. Voilà. Alors, vous voyez, toutes ces qualités différentes, dernière qualité auxquelles on pourrait ajouter le bon sens, qui est aux qualités d'émission, la même importance que la mémoire pour les qualités de réception. Eh bien, ce sont ces qualités d'émission qui font le créateur. Alors ça, c'est la première qualité. Il faut d'abord que le créateur ait ses qualités d'émission. Et ensuite, deuxième condition, comme je le disais tout à l'heure, c'est de trouver le projet innovant, le créneau produit-marché-porteur. Et ça, c'est le vrai secret unique de l'entrepreneur lui-même. Il ne faut pas qu'il le communique à ses copains. Il ne faut pas qu'il demande conseil à des anciens comme moi. On va tous lui déconseiller. Plus ça sera original, plus on va lui déconseiller. Alors, je raconte toujours qu'on m'avait demandé de présider un jury de création d'entreprise. J'avais refusé, bien on m'en a pris. J'avais refusé, parce que j'ai dit, vous allez juger le créneau et vous aurez tort. Ils ont donné le premier prix à un créneau qui était mauvais, et celui qui a eu le premier prix a fait faillite dans les 6 mois.
Oui, puis il y a forcément un aspect conservateur dans ce type de raisonnement. C'est-à-dire qu'on joue toujours en fonction du coup d'avant.
Et oui, c'est ça. En plus.
Cela dit, pour trouver ce créneau, il y a toutes les vertus propres au chef d'entreprise, au créateur, surtout que vous avez détaillé. N'y a-t-il pas aussi une vertu sociale qui dépend de l'environnement général et qui est, semble-t-il, assez peu partagée en France, notamment peut-être à cause des caractéristiques, j'y pense, parce que vous avez parlé des caractéristiques de notre système d'enseignement. Il semble que dans notre système d'enseignement, tout soit construit autour de la notion d'erreur. Et que, en conséquence, dans la société française, il y a assez peu le droit à l'erreur.
Très peu.
Et que donc, voilà, c'est bien d'exalter le goût du risque, mais si l'ensemble du corps social vous explique que si vous avez échoué, voilà, vous êtes un raté, ça n'incite pas tellement à prendre des risques.
Vous avez tout à fait raison. Et justement, ce livre, La double révolution, qui est un anticonformiste, lance des idées un peu nouvelles qui vont peut-être faire sursauter. Il y a, dans le chapitre de droit à l'erreur, il y a même un chapitre qui s'intitule « Le courage de faire faux ». Je m'explique. Dans l'entreprise, on a vu tout à l'heure, la vérité absolue qu'on cherche en philosophie n'existe pas. On sait que rien n'est parfait, qu'on n'a pas la note 20 sur 20, ça n'existe pas en entreprise. L'entreprise, c'est une asymptote, il faut tenter de s'en rapprocher le plus près possible. Donc on sait qu'on fait faux. Le problème, c'est d'être le moins faux possible. Et le problème, c'est même d'afficher l'erreur au départ. Je dis, je vais faire faux, mais j'espère ne pas faire faux à plus de 5%, 3%, 2%, 1%. C'est la mécanique de précision qui a inventé ce qu'on appelle la tolérance de fabrication. Vous décolletez en usinage sur un tour une pièce cylindrique. Vous savez que son diamètre doit être de 10 mm, plus ou moins un dixième. Et vous n'avez pas le droit d'être plus un dixième ou moins un dixième. Au-delà, la pièce est rejetée, elle n'est pas bonne. Nous affichons l'erreur. Et ça, c'est très bien d'afficher l'erreur. Je sais que je fais faux, mais je vous dis dans quelle limite je vais faire faux. C'est ce que nous aimons dans l'entreprise. Oui. Et c'est un raisonnement qui est très différent du raisonnement purement intellectuel. C'est un raisonnement issu de la pratique, voyez-vous. C'est des démarches intellectuelles. L'une vient du haut, c'est la démarche des qualités de réception qui ressortissent au cerveau droit, au cerveau gauche, l'intellectuel, c'est forcément gauche, alors que tout le reste, la pratique, l'imagination, le côté artistique, le côté créatif, ressortissent au cerveau droit, la partie du cerveau qui est la partie artistique. Oui, nous sommes donc dans des mondes différents, d'origine, d'analyse et de synthèse différents. Et nous vivons dans des mondes différents. C'est pour ça qu'il est difficile de faire passer un jeune du monde de l'enseignement supérieur, scolaire, universitaire, où il a pris la première démarche intellectuelle, dans la seconde qui est, pour eux, ils sortent de l'abstraction vers la réalité concrète. Et ce pas est difficile à franchir, et nous les aidons, nous créateurs, à franchir ce pas.
Oui, c'est effectivement certainement l'un des enjeux. Ça explique, en vous écoutant, je me demande d'ailleurs si finalement, s'il y a beaucoup de créateurs parmi les autodidactes, tous ceux qui n'ont pas de diplôme, n'est-ce pas ? C'est probablement pas simplement le fait qu'ils n'ont pas eu d'autre choix, ce qui est peut-être l'arrière-pensée que l'on a, mais peut-être parce qu'ils sont plus spontanément câblés pour l'action, le réel, la volonté de se heurter à ce réel, de le façonner, de s'y déployer.
Et j'explique dans le livre qu'ils ont un autre avantage, ils sont plus spontanés. Ayant moins réfléchi aux conditions de création, ils prennent plus facilement des risques. Plus vous réfléchissez vite et de façon élevée, plus l'analyse est détaillée, plus la prise de décision est difficile.
Puis on voit les obstacles.
C'est pas quelqu'un qui n'a compris que l'ensemble du problème qu'il a appréhendé, qu'il a senti, il prend la décision plus facilement. Alors, la décision de création est plus facile chez le moins instruit, mais le taux de croissance sera bien meilleur chez le plus instruit. Alors, nous sommes pris, voyez-vous, entre différentes choses. Alors, il faut faire, comme partout, une sorte de compromis. Il faut convaincre les instruits que ça vaut la peine, qu'il faut qu'ils analysent pas trop. D'ailleurs, dans les témoignages que j'ai dans le livre, j'ai 13 créateurs d'entreprises à partir de zéro qui ont bien voulu apporter leur témoignage. Et il est très amusant de voir que ces 13 créateurs, qui sont des créateurs d'envergure, arrivent à des conclusions absolument identiques aux miennes sans avoir lu mon livre. Et moi, je n'avais pas lu avant leur témoignage. Les 13 témoignages sont concordants. Allez-y, à l'instinct. Devinez le marché, allez-y, courez des risques, ayez le droit à l'erreur, l'erreur vous formera, vous rectifierez le tir, mais allez-y. Le message, voyez-vous, d'enthousiasme collectif. D'ailleurs, moi je dis toujours, je termine toujours mes conférences dans les écoles, les universités, par cette phrase extraordinaire qui les motive bien. Je leur dis surtout, créez dans l'enthousiasme, gardez votre enthousiasme, vous verrez, c'est ça qui sera le moteur. Car, comme avait dit Champfort pendant la Révolution, avant de mourir dans les conditions tragiques que vous savez, Champfort avait dit « Si les raisonnables ont duré, les enthousiastes, eux, ont vécu. Ben » c'est pas mal comme formule pour les jeunes, je dois dire que ça les motive beaucoup, car ils veulent vivre, les jeunes.
C'est tout à fait vrai, et lorsque l'on interviewe d'ailleurs des créateurs d'entreprises, c'est la première chose qui revient souvent, c'est « je m'ennuyais ». Je m'ennuyais dans la première chose, dans ma première vie professionnelle. Je m'ennuyais, je tournais en rond, je ne pouvais pas entreprendre ce que je souhaitais. Voire même, on est parfois confronté à des personnalités de type réellement anticonformiste. Je ne supportais pas les horaires, je ne supporte pas qu'on me donne des ordres, je ne supporte pas que mon imagination puisse être bridée.
Créateur d'entreprise est un indépendant. Sa première qualité, c'est l'indépendance. Indépendance d'esprit, indépendance d'horaire, indépendance de travail, indépendance de responsabilité. Il faut déjà un caractère indépendant, un caractère trempé. Bon. Ces qualités-là, mais ça donne beaucoup de satisfaction. Et comme vous disiez, moi, je n'ai jamais vu un créateur d'entreprise qui s'ennuie. Ils sont tous passionnés. D'ailleurs,
ont parfois des ennuis, mais ils ne s'ennuient pas.
Mais ils ne s'ennuient pas. Mais je vais vous en donner un exemple, n'est-ce pas ? Maintenant, je fais toutes mes conférences, moi, dans les universités ou les grandes écoles, en me faisant accompagner par 3 ou 4 jeunes créateurs d'entreprises qui ont créé leur entreprise quand même depuis au moins 4 ou 5 ans, pour pas que ce soit un tout nouveau qui risque de faire faillite. Et je ne les connais pas. J'arrive la semaine dernière à Saint-Lô, je ne les connaissais pas. On me les propose sur place. Et quand je vais dans une école, c'est généralement des anciens écoles, des anciens élèves de l'école où je suis et qui racontent leur aventure. Alors ces jeunes qui parlent à leurs confrères, qui ont quelques années de moins qu'eux, ils sont moins éloignés que moi, qui suis un ancien parmi les anciens, vous voyez, un notable un peu éloigné, ils sont plus convaincants. Alors c'est la vraie méthode de transmission de l'idée d'entreprise qui n'existe pas par les cours ex cathedra, ça ne marche pas, ça n'existe que par les vertus irremplaçables de l'exemplarité. Vous amenez des créateurs, des jeunes créateurs, proches d'eux, ils répondent à leurs questions et ils expliquent pourquoi et comment ils se sont lancés dans cette folle aventure et que ça réussit. Et que les risques existent, mais qu'ils sont peut-être moins grands qu'on le croit. Et que le nombre de faillites existe aussi, mais qu'ils sont moins, le nombre est moins important qu'on le croit. Eh bien, tout ceci joue. Et alors, à la fin du petit amphi, de la petite causerie, j'ai pris l'habitude de faire lever la main depuis 30 ans, en leur disant, quels sont ceux parmi vous, après ces causeries collectives, ces exemples vécus, quels sont ceux qui auraient éventuellement, aujourd'hui, envie de créer demain une entreprise ? Alors, au tout début, j'avais très peu de réponses positives, très peu de doigts qui se levaient, 1, 2%. Nous sommes aujourd'hui, parfois, nous sommes quelquefois à 40, 50% des élèves qui lèvent la main. Je sais bien que c'est un vœu pieux qui n'engage personne et que malheureusement, il n'y en a pas 50% qui créeront. Mais s'il y en a déjà la moitié qui ont envie ou l'idée de créer, ça en donnera peut-être 10 ou 15% qui le feront réellement. Donc je crois que nous sommes à un tournant en France. C'est la double révolution de mon livre. Nous sommes en train de négocier cette deuxième révolution qui aujourd'hui est perdue parce qu'on fabrique des entreprises naines. L'ennui, c'est qu'on crée des entreprises et on a peur d'embaucher. Alors on a des entreprises naines, on a beaucoup d'entreprises qui se créent, mais des entreprises sans emploi et on cultive le nanisme avec délectation. Il faut dire que le français adore les petits, c'est ce que j'appelle le culte de l'ourson. Plus l'ourson est petit, plus il est maladif et larmoyant, plus on le bichonne, on le soigne et on le met même éventuellement sous la tente à oxygène gouvernementale. Mais c'est pas ça. Il faudrait faire comme dans les pays modernes, c'est pousser les meilleurs et pas entretenir les plus malades en laissant tomber les meilleurs en disant ils se débrouilleront bien. Mais non, il faut les aider, il faut les pousser.
Oui, donc, il y a un petit syndrome anctile même, c'est-à-dire que oui, on aime aussi ceux qui ont raté.
C'est ça, ils se débrouilleront bien. C'est ça. On préfère le second Poulidor qui n'était jamais premier. Ben c'est ça, c'est un peu le même culte, n'est-ce pas ? C'est le culte de l'ourson. Et il faut qu'on le transforme en culte du tigre, du petit tigre, même s'il a le même poids, la même allure qu'un gros chat, il ne faut pas les confondre, ce n'est pas la même race. Or, il faut laisser tomber le chat et s'occuper du petit tigre. Et il viendra gros, et lui, il conquérera, il faut qu'il soit innovateur, exportateur, investisseur. Et s'il est ces trois choses-là peu à peu, il sera forcément employeur. Et le fameux emploi dont on parle tant en ce moment, l'emploi, la triple priorité dont on parlait tout à l'heure, eh bien, l'emploi, il viendra tout seul de la croissance de nouvelles entreprises. Parce que, imaginez une entreprise nouvelle qui passe d'un salarié à deux, elle double ses effectifs. Mais si elle passe, comme nous l'avons fait il y a bien longtemps, de zéro salarié à près de 3000, et nous sommes nombreux à avoir fait ça, là, ça fait des emplois disponibles, hein. Vrais emplois. Alors je crois que c'est ça qu'il faut faire, il faut que cette deuxième révolution du livre se réalise maintenant, il faut créer des entreprises de croissance et pas uniquement de nombreuses entreprises, c'est pas suffisant. Il faut des entreprises de croissance et qui grandissent réellement et qui embauchent réellement.
Et c'est peut-être le dernier verrou à faire sauter, c'est le faire comprendre que celui qui crée une entreprise ne poursuit pas seulement une aventure formidable qui lui procurera beaucoup d'agréments, de plaisir, même dans les embûches, mais également qu'il est probablement un de ceux qui contribuent le mieux à l'intérêt général.
Sûrement. Vous savez, une entreprise qui réussit, c'est ce qui contribue le mieux à l'intérêt général. Parce qu'une entreprise qui réussit, qui grandit et qui embauche et qui exporte, vous voyez ce qu'elle fait pour le pays. la balance commerciale, la richesse du pays, le PIB, les impôts pour l'équilibre financier de la France, et surtout, pour en terminer, ces fameux emplois qui sont la denrée la plus rare actuellement dans notre pays.
Parce qu'il est vrai que, n'avez-vous pas le sentiment que dans notre pays, je ne veux pas accabler notre malheureux pays, bien au contraire, il y a toujours cette idée qui reste ancrée, que l'intérêt général serait du ressort exclusif de la chose publique et de l'État, tandis que tout ce qui se déploie dans la sphère privée ne serait que déchaînement d'égoïsme, d'hédonisme et de choses bien pires encore. Est-ce que là aussi, est-ce que ce n'est pas la troisième révolution?
Non,
c'est ce qui articulerait.
Je pense qu'aujourd'hui,
élan.
Je crois que cette partie est gagnée. Je crois que l'initiative privée, quand même, aujourd'hui, est reconnue comme magique, n'est-ce pas ? L'entreprise privée, l'initiative privée, pas uniquement l'initiative publique, n'est-ce pas ? Bien sûr, il reste encore des poches de résistance. Par exemple, on dit, n'est-ce pas ? On conteste, par exemple, ces problèmes d'emploi qui ont été créés par des allègements. Moi, je me bats, vous savez, depuis toujours, et j'avais dit, si vous allégez certaines contraintes, ça créera des emplois, vous vous rappelez, en particulier quand j'avais obtenu, en 1986, quand j'étais au CNPF, l'ancêtre du MEDEF, j'avais dit, si on lève cette inhibition majeure de l'autorisation administrative de licenciement, vous verrez, ça va créer quelques 300 000 emplois. Chiffre qui a d'ailleurs souvent été mal retenu ou transformé ou augmenté. Et en 18 mois, malheureusement, c'était en 18 mois, c'était ce qu'on avait prévu. Eh bien, quand le nouveau gouvernement de 86 a levé cette inhibition, on a vu un phénomène absolument extraordinaire. La courbe des emplois qui descendait de façon linéaire depuis 1980, mais linéaire, c'était pratiquement une droite, est remontée brutalement, avec une brutalité incroyable, au moment même de l'annonce et avant même de la mise en place de cette levée d'autorisation qui était prévue pour 6 mois plus tard, le 1er janvier 87. Ben, ces chiffres authentiques de l'INSEE, de l'UNEDIC, sont souvent contestés. On dit, oh ben non, on n'a jamais vu ces emplois, on n'a jamais vu. On avait prévu 300 000 emplois, ça en a fait 375 000. On a la preuve scientifique et historique que la levée de rigidité sociale crée réellement des emplois. On l'a. Il n'y a qu'à l'appliquer. Il y a des courbes, il y a des chiffres que tout le monde peut vérifier. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'on sera obligé en France de modifier ces deux derniers facteurs qui nous entravent, la fiscalité et les contraintes sociales.
Et gagner ainsi la seconde révolution que vous appelez de vos voeux. Voilà. Pour davantage, merci beaucoup Yvon Gattaz. Je m'adresse maintenant aux auditeurs. Pour ceux qui souhaiteraient se renseigner davantage sur cette aventure de la création d'entreprise et sur la double révolution qui peut la permettre, non seulement permettre la création, mais leur croissance et résoudre ainsi de nombreux problèmes que rencontre notre pays, ou plutôt relever des défis collectifs qui se posent à lui, je ne peux que les inciter à consulter le livre d'Yvon Gattaz, Création d'entreprise, la double révolution. C'est disponible aux éditions Erol. Merci encore Yvon Gattaz pour ses propos non seulement pertinents, mais énergétiques. Et c'est là leur première qualité, d'être énergétique et d'inciter à se retrousser les manches pour aller de l'avant. Merci beaucoup.
Merci.